Le plaisir.
Beaucoup de chaleur, beaucoup de...
Justin Timberlake.
Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous.
Je ne suis pas que ton objet de désir.
Dans la nature, à la mer, en ville.
Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamiser, c'est bien.
Le matin, en été, je trouve que c'est le top.
Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout, je l'ai testée.
Jouir de la vie, ce rêve, vous, moi, on le caresse tous. C'est même le désir le plus partagé aujourd'hui. Et pourtant, dans notre routine quotidienne, la réalité est là. Nous manquons d'espace, de temps, d'attention pour apprécier ces petites choses minuscules et sublimes que l'anthropologue Françoise Héritier appelait le sel de la vie. Dans notre société qui parfois nous épuise, où dès l'âge de 25 ans, de plus en plus de jeunes sont en burn-out, nous courons le risque de passer à côté de notre vie. Pourquoi a-t-on l'impression que trop souvent la jouissance nous échappe ? Comment réussir à capter ces instants de grâce, à leur donner du sens, à les savourer, un peu comme une contre-hygiène du plaisir ? Jouir de la vie, est-ce que c'est devenu un acte de liberté, en particulier pour nous les femmes, dont nos vies sont de plus en plus contraintes ? Jouir, est-ce résister ? Je suis Dalila Kerchouche, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé « Désir ». Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille une grande voix de la radio, Adèle Van Rett. Adèle, tu es l'une des rares philosophes contemporaines à penser le corps et le plaisir. Bonjour Adèle.
Bonjour Dalila.
Adèle, tu as 35 ans et tu es normalienne. Tu produis et animes les chemins de la philosophie du lundi au vendredi à 10h sur France Culture. Et tu cartonnes, aussi bien en direct qu'en podcast, avec plus de 3 millions d'auditeurs chaque mois. Tu pilotes aussi l'émission Livrez-vous sur Public Sénat et cette rentrée, tu as pris les rênes du magazine Dardard sur France 2. Enfin, tu diriges une collection chez Plon, dans laquelle tu as écrit un livre précieux et audacieux sur la jouissance, avec le philosophe Jean-Luc Nancy. Avec toi, nous allons explorer la jouissance dans tous ses états. Adèle, dis-moi, quand tu étais petite fille, quelle place avait la quête du plaisir dans ton enfance ? Qu'est-ce qui exaltait la petite fille que tu étais ?
Petite, le rapport que j'avais au plaisir était complètement lié au quotidien. Comme sans doute beaucoup d'enfants et beaucoup de petites filles et de petits garçons, ce qui me réjouissait, hein, la jouissance donne lieu à la réjouissance, même si on peut les distinguer, était la promesse de choses à venir qui sortaient légèrement du quotidien. Il y avait le rythme des repas, le rythme de l'école, le rythme des activités avec mes parents, avec mes frères, ou moi-même les activités sportives ou musicales. Et la réjouissance était à propos de quelque chose qui allait être légèrement décalé par rapport à ce qui est prévu, par rapport au rythme quotidien. Ça pouvait être une activité le week-end, ça pouvait être d'aller marcher en forêt avec ma famille, d'aller dormir chez une copine, de faire un match de basket. Je faisais du basket quand j'étais petite et je me réjouissais. J'attendais avec beaucoup d'impatience les matchs de basket du samedi. Ça avait lieu le samedi après-midi à ce moment-là. Retrouver mes copains... Et j'y pense, puisque vous me posez la question, une source vraiment de grande joie que j'avais quand j'étais petite, c'était de recevoir les magazines auxquels j'étais abonnée. J'étais abonnée à Astrapi, qui arrivait deux fois par mois. Et l'arrivée d'Astrapi dans la boîte aux lettres provoquait chez moi mais des cris de joie, au dire de mes parents. Moi, j'ai oublié, je peux être un peu dans le déni. Mais en revanche, je me souviens de ce plaisir-là de recevoir ce magazine, ainsi que du plaisir, et je ne l'invente pas, ce n'est pas une manière de fabriquer ma vie, d'écouter la radio. J'ai découvert petite la radio. Et je me souviens de ma joie lorsque mes parents m'ont offert un poste de radio multicolore. C'était pour mes 6 ans, je crois. Et je m'en suis plus séparée ensuite. J'ai découvert des chaînes de radio, une chaîne de radio pour les enfants, justement, que j'écoutais dans ma chambre, en rangeant ma chambre. Et ça, c'était vraiment une grande joie.
Tu as grandi avec 3 frères.
Oui.
Quel rapport féminin-masculin tu as pu construire quand tu étais enfant avec tes frères ?
J'ai été éduquée exactement comme mes frères. À aucun moment dans mon éducation... Le fait que je sois une fille, puis une femme, n'est entré en ligne de compte. Donc, je n'avais aucune conscience de la différence, hormis la différence anatomique. Bien évidente, quand on grandit avec des garçons, c'est la première chose qu'on constate. Mais je n'avais aucune conscience de ce que pouvait signifier être une fille ou être une femme, à l'inverse d'être un garçon ou être un homme. Et je l'ai réalisé beaucoup plus tard.
Et quel rapport au désir ta mère t'a-t-elle transmis ? Est-ce qu'elle t'a appris à t'écouter ?
Ma mère est fille de militaire. Elle nous a transmis une éducation basée sur une forme de discipline, pas du tout au sens strict et mortifère du terme, au contraire. Ma mère nous a transmis le goût de se battre pour les choses que l'on désirait. C'était pas tellement une manière d'influencer nos désirs que de nous faire prendre conscience que si nous arrivions à identifier nos désirs, eh bien, il ne tenait qu'à nous d'y parvenir. C'est plus une affaire de volonté. En réalité, ce qui est très précieux, ce qui parfois s'oppose au désir, mais être armé d'une volonté solide permet dans certains cas de se rendre attentif au désir.
Tu parles de discipline. Dans une interview que tu as donnée au Figaro, tu dis ceci. Petite fille de militaire, je suis allergique au terme de discipline. Pourquoi ? Est-ce que la discipline, ça freine le désir pour toi ?
Je l'ai vécu ainsi. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que cette discipline qui était vraiment une force chez moi, qui m'a permis de faire beaucoup de choses auxquelles je ne serais pas parvenue sans cette discipline, sans cette volonté. Je crois que la discipline est affaire de volonté, encore une fois. Avait tendance, mais en ce qui me concerne, c'est pas un système, et ça, c'est pas le cas chez mes frères, donc c'est vraiment la manière dont je suis constituée, avait tendance à recouvrir l'attention que je pouvais porter à un désir. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que tout n'est pas affaire de volonté, que parfois même le désir s'oppose à la volonté, et je me suis trouvée démunie. Comment accueillir un désir qui me constituait, qui me traversait, et qui semblait s'opposer en tout point à la discipline que j'avais mise en place? Ça a été un moment très fort dans ma vie, assez tardif, qui a impliqué une grande déconstruction de ma manière de réagir, de penser les choses, et qui a ensuite porté ses fruits. Et je me sens désormais encore plus forte d'avoir, à côté de cette volonté, de cette obstination, peut-être, cette force, une attention aussi à mon désir, ce qui veut dire aussi une attention à mes contradictions, à mes faiblesses, à l'impossible. Le désir n'est pas toujours possible. Le désir est parfois de l'ordre du fantasme, de l'ordre du rêve, quelque chose qui nous fait tourner le dos à la réalité. Et la discipline enseigne la connaissance du réel, quand le désir, parfois, brise cette connaissance et montre que le réel est souvent friable, que bien souvent, la plupart du temps, il nous échappe. Et c'est à nous de trouver une manière de se rendre attentif à ce désir et de voir quel chemin emprunter pour se donner une chance de l'assouvir.
À l'adolescence, cette friction entre le désir et la discipline est exacerbée. Comment est-ce que tu l'as traversée ?
Alors, moi, je crois que c'est venu beaucoup plus tard chez moi. Je l'ai nommé comme ça, en tout cas, beaucoup plus tard. Je dirais presque autour de la trentaine, un petit peu avant, entre 25 et 30 ans. Ce qui est étonnant, et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé si tard. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au lycée, j'avais dit à mes parents, qui me demandaient ce que je voulais faire après le bac, que je voulais être comédienne, je voulais jouer, je voulais être actrice, et ça depuis toute petite. Et mes parents m'ont dit, bon, mais pourquoi pas, mais on veut que tu aies un diplôme d'abord, ce qui est normal. En bons parents sensés qui veulent pas que leur fils aventure dans la jungle du milieu du cinéma et du théâtre, ils voulaient que je sois diplômée. Et donc j'ai commencé des études d'architecture qui ne me plaisaient pas. J'ai voulu les arrêter au bout de quelques mois. Et là, j'ai dit à mes parents, j'ai pris mon courage à deux mains, j'habitais à Strasbourg à ce moment-là. J'ai dit, écoutez, je vais à Paris, je vais prendre des cours de théâtre, je veux vraiment jouer. Mes parents m'ont dit, mais pas du tout. Non, non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Tu arrêtes l'école d'architecture si tu veux, mais tu trouves d'autres études à faire. Il faut au moins que tu aies, à l'époque, un DUG, 2 ans d'études, un diplôme en poche, et ensuite tu feras ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc arrêté mes études d'archi. On était en janvier dans l'année. J'ai travaillé dans un supermarché jusqu'à l'été. Et en septembre d'après, je suis rentrée en prépa, en hypocagne.
Et tu ne t'es pas rebellée.
Et ma grande question que je me pose encore aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que j'ai obéi, au fait. Pourquoi est-ce que je ne leur ai pas dit « Bah non, c'est ma vie, mon désir, je vais y aller, envers et contre tout. » À aucun moment ne m'est venu à l'esprit que mon désir pouvait l'emporter sur la loi, en fait, sur la loi de mes parents.
Est-ce que les filles sont plus soumises que les garçons à la loi parentale ?
Peut-être. Dans mon cas, c'est pas comme ça que je me suis formulé les choses. Encore une fois, forte de l'éducation que j'avais reçue, qui ne faisait aucune différence entre mes frères et moi, je me suis jamais dit que c'est parce que j'étais une fille que j'avais obéi à mes parents. À aucun moment.
Grandir, c'est aussi quelque part se libérer des attentes que les autres portent sur nous et se libérer des stéréotypes. Quand tu étais adolescente, Adèle, est-ce que tu as été confrontée à des stéréotypes qui touchent typiquement les jeunes filles ? Le diktat de la beauté, de l'apparence, de la mode. Est-ce que ça a été un poids pour toi ou pas du tout ?
En tant que fille adolescente ou femme adolescente à l'époque, bien sûr que je me posais la question. Ça n'était pas réduit à la beauté ni à l'apparence. Quelle personne suis-je ? Et est-ce que cette personne peut être aimée par d'autres personnes que moi ? Ce qui est vraiment une question que beaucoup d'adolescents se posent. Faut-il se construire une identité particulièrement intéressante, originale, rebelle ou au contraire conforme, classique et traditionnelle pour pouvoir exister en société, pour recevoir l'approbation de ses pairs, etc. Je crois avoir vécu cette question de manière un peu différente parce que j'ai eu la chance aussi de vivre à l'étranger. J'ai passé une année scolaire en Nouvelle-Zélande, à Auckland, entre la seconde et la première. Et j'étais dans une école, alors bien loin de mon univers de trois frères, amis surtout avec des garçons, j'étais dans une école uniquement de filles, 2000 filles, avec uniforme. Ce qui a complètement changé mon rapport à l'apparence, puisque tous les matins, en fait, je mettais l'uniforme qu'il me fallait mettre et toutes mes copines à l'école étaient habillées de la même façon. Les 2000 filles qui composaient l'école étaient habillées de la même façon.
Et ça te plaisait ?
Je sais pas si ça me plaisait. Il y avait un certain confort à ne pas tout miser sur l'apparence vestimentaire. Et j'ai aussi constaté que le diktat de l'apparence jaillissait sur d'autres aspects, qui pouvaient être la coiffure, qui pouvaient être d'autres manières de se tenir ou d'exister. Ce qui m'a déplu, c'est le clivage que ça crée entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que les rares fois où un garçon traversait l'école, c'était un phénomène de foire. Et quand les filles et les garçons se retrouvaient le week-end pour faire la fête ou faire des activités ensemble, il y avait un fossé très très fort qui séparait les filles et les garçons que moi je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas cette espèce de grande gêne et fascination qu'un garçon pouvait susciter pour une fille et réciproquement.
Et quel rapport tu avais avec les garçons en termes de séduction, de relations amoureuses ? Comment ça se passait ?
Du fait d'avoir grandi avec trois frères, je pense, et c'est pas juste trois frères, c'est que mon père n'a que des frères, ma mère n'a que des frères. C'est vraiment, j'ai grandi dans une famille de garçons. Ma mère est la seule fille et ma grand-mère aussi. Mais je crois que ça a développé en moi un rapport d'abord amical aux garçons. La séduction n'était pas un enjeu en premier, c'était mes frères, puis mes oncles, puis mes cousins, puis mes amis ensuite. Je n'ai pas eu en premier ce rapport de séduction ou de peur ou de fascination aux garçons. Je les considérais comme mes semblables. Ce qui n'a pas empêché très tôt de ressentir des choses différentes pour un garçon, pour un certain garçon.
Les premiers émois.
Les premiers émois qui sont arrivés très vite et je voyais vraiment la différence entre les garçons que je considérais comme mes amis ou mes frères et un garçon qui retenait beaucoup plus mon attention et qui me faisait mal au ventre quand je le regardais et tremblait quand je lui parlais.
Et là, le corps nous trahit. On a l'impression que...
Voilà, et là, on découvre la timidité, on découvre que la parole qui, jusque-là, pour moi, était tout à fait libérée avec les garçons comme avec les filles, avec les adultes comme avec les enfants, pouvait piétiner, ne pas trouver ses mots. Et c'était un nouveau type de relation avec les garçons.
Et comment tu as traversé justement ces premiers émois où le corps réagit de manière nouvelle ?
C'était pas d'abord le corps d'ailleurs, c'était plus le cœur, je dirais. Il y avait un sentiment bizarre où j'arrivais pas à arrêter de regarder ce garçon. Là, à 6 ans, je me souviens du premier garçon, je me suis dit, mais ça faisait quelque chose.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelait Olivier. Mon regard se portait vers lui et il se distinguait des autres. Et il n'en a jamais rien su, et je pense que je ne l'ai jamais formulé comme tel. C'était même pas l'enjeu, je ne savais même pas ce qui se passait. Je ne dirais pas que j'avais même envie de l'embrasser. Ce n'était pas un désir physique, c'était un émoi. C'était un sentiment qui naissait et qui faisait que je pensais beaucoup à lui, j'aimais bien le regarder, mais peut-être parce que j'étais terrorisée ou parce que, à 6 ans quand même, enfin, en tout cas moi, je n'avais pas vraiment conscience de ce que le corps pouvait permettre avec quelqu'un d'autre. Et du coup, la question ne se posait pas. Donc c'était plus un sentiment.
Ce premier émoi, ça a été un élément constitutif dans ton rapport à ton corps ?
Non, je pense que c'est venu beaucoup plus tard. Il y a eu beaucoup d'autres garçons que je disais aimer sans que ça passe par un désir corporel. Le désir du corps, il est venu plus tard. Il est arrivé au collège, il est arrivé quand moi-même, mon corps a commencé à se transformer, et que, avec toute la gêne que ça implique au début, quand la poitrine commence à pousser, quand les poils commencent à pousser, quand les règles apparaissent, et on découvre son corps comme un ovni, comme une espèce de véhicule poids lourd dans lequel on se sent toute petite, on ne sait pas du tout quoi en faire, et c'est vraiment une gêne. Les apparitions physiques du désir sont arrivées tardivement. L'envie d'embrasser un garçon, je me souviens qu'elle est arrivée, mais je me souviens que j'étais terrorisée. Et je me souviens c'est mignon, c'est à l'époque, on se demandait « est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et je me souviens qu'il m'a demandé « mais est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et j'en mourais d'envie, j'y arrivais même pas à répondre, j'ai hoché la tête en disant « oui, je suis partie en courant ». De peur, sans doute, qu'il y ait un contact physique et je parte en vacances après, il m'avait envoyé une carte. Tout sentiment s'était dissipé une semaine plus tard. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel désir, amour, je sais pas quel est le terme juste, attirance pour ce garçon ? Enfin, il y aurait dû y avoir une forme de concrétisation physique. Je suis partie en courant et tout s'est éteint.
Désir et peur sont intimement liés ?
Oui, je crois que le désir est frais. Et que grandir, sortir de l'enfance, apprendre à connaître son corps et développer un rapport à sa propre jouissance consiste à se familiariser avec son désir. Désir physique ou autre, c'est très compliqué déjà de le reconnaître. je n'ai pas eu un désir qui m'opposait aux autres. C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes qui se rencontrent très tôt, qu'elles ont un désir homosexuel, par exemple, qui doit compliquer considérablement l'effort de reconnaître son désir. Quoique, y en a qui le font assez facilement. C'est quelque chose qui nous échappe. Et c'est quelque chose qui implique, dans le cas du désir physique, une autre personne. Et ça, cette émission de l'altérité au sein de son propre corps, c'est le cas de le dire, bah, il faut être prêt à ça. Il faut être à la fois sûr de soi et prêt à s'ouvrir à l'autre, ce qui demande beaucoup. Et ce qui s'apprend aussi au gré des rencontres et au fur et à mesure qu'un certain rapport de familiarité, de connaissance de son propre corps se développe.
Tu as 28 ans, Adèle. Tu es alors inconnue des auditeurs de France Culture et tu prends la relève de Raphaël Eindhoven à la tête des Nouveaux Chemins de la Connaissance, une émission qui cartonne. Comment as-tu vécu cette prise de risque ? Est-ce que tu as eu peur ?
Oui, j'étais terrorisée. J'étais terrorisée jusqu'au dernier moment, pendant, après. Je n'ai pas trop réfléchi. C'était encore une fois, c'était une manière de me jeter à l'eau, de sauter dans le vide, en sachant que j'allais y prendre beaucoup de plaisir et que je renonçais sans doute quasiment définitivement à toute forme de quiétude intérieure, de sérénité du quotidien et de repos véritablement réparateur, puisque animer une émission quotidienne est quelque chose de très harassant. J'animais depuis 2 ans une chronique, déjà à la fin de l'émission, donc je connaissais le rythme quotidien, j'étais un peu habituée au micro, mais pas du tout à l'exercice d'une heure quotidienne avec un invité pendant 50 minutes et une discussion à bâton rompu. J'ai eu très peur et je l'ai fait quand même, et j'étais d'autant plus terrorisée que la voix trahit tout. Et que je savais que ma peur s'entendait à l'antenne. J'ai appris à découvrir ma voix dans le casque, j'ai appris à m'écouter, ce qui est absolument insupportable quand on n'est pas du tout habitué. Après, ça va un peu mieux, mais c'est jamais une partie de plaisir, enfin en ce qui me concerne. J'aime pas beaucoup m'écouter après. Mais j'ai développé un plaisir dans cette peur. En tout cas, je continue le même métier et avec énormément de plaisir. C'est donc qu'il y avait bien quelque chose qui se jouait là.
Ce succès que tu rencontres aujourd'hui avec ton émission, est-ce que tu en jouis ?
Alors, je ne me dis pas que j'en jouis. J'en suis heureuse, j'en suis fière, même si je ne mets pas trop ce terme dessus, mais c'est gratifiant de voir que l'investissement que j'ai mis dans cette émission depuis 10 ans maintenant porte ses fruits. Mais j'ai aussi tellement conscience qu'en fait, je pourrais travailler autant et avoir beaucoup moins d'auditeurs. Et c'est toujours une telle surprise pour moi de voir qu'il y a autant de téléchargements. Je fais des semaines sur la critique de la raison pure avec des philosophes qui parlent de la dialectique transcendantale et d'expériences qui sont détachées de l'a priori. Si j'avais 500 auditeurs dans le monde entier, je ne serais pas surprise. Non, je ne jouis pas, pour vous répondre, je ne jouis pas du succès, je jouis de faire l'émission. J'adore ça. J'adore le direct, j'adore discuter avec quelqu'un derrière un micro. J'adore essayer de conduire quelqu'un vers ce qu'il voudrait dire en l'aidant. J'adore l'idée de transmettre des choses exigeantes le plus simplement possible au plus de monde possible. Ça, vraiment, ça me passionne. Et ça, c'est une source de jouissance quotidienne. Je me méfie trop de ce succès. Je sais trop ce qu'il signifie. Bien sûr, j'en suis ravie. Je ne construis pas ma vie autour de ça parce que je sais à quel point c'est fragile et précaire. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre et c'est super, mais ce n'est pas ce qu'il y a de durable, ce n'est pas ce qu'il y a de stable.
Ton instrument, c'est ta voix. Comment est-ce que tu la travailles ?
Ah, je ne travaille pas ma voix. Et d'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché. C'est ce que je disais par rapport à mes premières prises d'antenne. On me dit, mais il faut que tu t'écoutes plus, il faut que tu apprennes à poser ta voix. J'ai jamais travaillé ma voix. Ma voix a changé parce que je me suis calmée, parce que je suis moins stressée derrière le micro qu'avant, beaucoup moins. En tout cas, pendant mon émission. Parce que je me sens à l'aise, parce que je me sens chez moi. Quand le rouge s'allume du micro à 10h le matin, quels que soient les soucis que je traverse, quel que soit l'état dans lequel je suis, tout se dissipe. Le micro s'allume et je sais que pendant une heure, je serai chez moi, je serai dans un espace de liberté, de suspension, de bonheur, de dialogue et de découverte. Et je me sens bien, donc je crois que ma voix, de ce fait, transmet le fait que je me sens bien. En fait, je refuse de développer un rapport réflexif à ça. Je m'adresse à des gens quand je parle à la radio et je m'adresse vraiment à eux. Je ne suis pas là pour m'écouter, je ne suis pas là pour travailler ma voix, faire des effets de style. Je suis là pour leur parler. Et j'ai envie qu'ils m'écoutent. Et j'ai envie surtout qu'ils écoutent l'invité à qui j'ai proposé de participer à l'émission et qu'on entende ce qu'on dise parce qu'on essaie de construire ensemble de manière spontanée, non construite, et bien quelque chose qui est très difficile à nommer et qu'on va essayer de nommer pendant 50 minutes. C'est beaucoup plus important que de me dire « Tiens, là, j'ai bien réussi ma fin d'émission. Tiens, là, j'ai vraiment fait une belle prise de micro. » C'est vraiment des questions que je me pose jamais. Oui, je suis un transmetteur, en fait, sans mauvais jeu de mots, dans tous les sens du terme. une transmetteuse, si vous voulez. mais c'est pas moi. Moi, ce que je pense, que je suis, ma voix, peu importe, c'est ce qui se passe. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. C'est ça qui est jouissif.
Pour y parvenir, il faut quand même une certaine sérénité. Est-ce que devant ton micro, tu te sens parfaitement ancrée dans ton corps ?
Absolument. Je me sens bien. Devant le micro, je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens sur terre. Je fais plus de différence entre mon corps, mon esprit, ce que je sais, mes hésitations, ma voix. Il y a une forme d'unité, d'harmonie que je cherche à créer. C'est aussi une chose que j'essaye de faire dans l'émission, qui est une harmonie parfois, qui implique la provocation, la transgression, ce qui rappe. C'est peut-être le moment d'ailleurs de ma vie, avec les moments que je passe avec mon fils, où la tranquillité est d'un naturel absolu. Où je me pose même plus de questions, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus d'intranquillité, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de quand dira-t-on. Ce qui est une grande victoire, hein, parce que quand j'ai repris l'émission en 2011, évidemment, j'étais terrorisée par ce que les gens allaient dire. J'ai un rapport assez pudique à moi, à ma vie, à mon intimité, à mon passé, etc. Et j'ai toujours beaucoup redouté la manière dont les gens pouvaient juger qui j'étais, ce que je faisais. Et j'ai choisi un métier où je m'expose à qui veut m'entendre. Et avec pour médium la voix, qui je crois trahit beaucoup plus que le visage d'ailleurs. Enfin, ce serait à creuser cette différence radio et télé, mais la voix, quelque chose de très intime, qui dit beaucoup plus que ce qu'on veut dire, qui dit ce qu'on ne montre pas. Et en fait, je crois que ça m'a aidée. J'ai gagné en confiance aussi, en me rendant compte que je pouvais prendre la parole tous les jours, y compris avec mes incertitudes, mes perplexités, mes hésitations. Et non seulement rester en vie, ne pas m'effondrer, mais même être écoutée et appréciée. Ça a été quelque chose d'incroyable. Et je pense même, je pourrais même aller jusqu'à dire que c'est cette émission et le fait d'être écoutée m'a donné confiance, y compris de manière beaucoup plus privée, de manière beaucoup plus intime, en me disant « mais oui, en fait, ma parole peut dire quelque chose ». Ça, c'est un problème que moi, j'avais. Une sorte de doute par rapport au langage. Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on a envie de dire? Est-ce qu'on n'est pas toujours étranger à sa propre parole? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un décalage entre l'image qu'on renvoie et ce qu'on est vraiment? Et je crois que beaucoup de ces questions-là se sont dissipées dans la pratique de mon métier à la radio.
S'ancrer dans son corps, c'est une source de force, de puissance. Si les femmes, aujourd'hui, s'incarnaient davantage dans leur corps, qu'est-ce qu'on y gagnerait, à ton avis?
C'est très compliqué d'être bien dans son corps, et pas simplement parce que dans son corps de femme, d'être bien dans son corps, c'est compliqué. On hérite quand même d'une tradition culturelle qui distingue le corps et l'esprit, depuis Platon. Il y a l'âme, d'un côté, éthérée, loin des basses choses matérielles, et il y a le corps, cette espèce de monticule de chair qui est notre véhicule sur Terre, dit Platon, dont on ne sait pas quoi faire, qui nous embarrasse. On grandit avec cette idée-là. Moi, j'ai une vision beaucoup plus, je dirais, spinoziste des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit, c'est nous. Ce que je dis se traduit par mon corps, les auditeurs ne le voient pas, mais depuis le début de notre discussion, je n'arrête pas de bouger les mains, c'est comme ça que je m'exprime, toujours.
Tu parles avec ton corps.
Je parle avec mon corps, voilà, ça je le sais, je l'ai vu, puis on me l'a suffisamment dit. Et parfois mon corps dit des choses que ma voix ne dit pas. Imaginez quand quelqu'un se met en colère, qu'il se met à crier, il n'a pas prémédité cette colère, et là il comprend qu'il est en colère, il ne l'était pas formulé avant. Parfois le ton, le corps nous renseigne sur ce que nous pensons. Donc, voilà, est-ce que si les femmes étaient mieux dans leur corps, qu'est-ce qu'elles y gagneraient? Mais elles gagneraient tout simplement une manière d'exister beaucoup plus facile, mais qui reste un combat.
C'est un combat très actuel pour les femmes. Body positive, on parle de sexe-féminisme aussi. Le néo-féminisme, aujourd'hui, passe de plus en plus par le corps.
Pour moi, l'émancipation par le corps chez la femme, aujourd'hui, elle passe par la sexualité. On a quand même attendu très 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 longtemps, des milliers d'années, avant que le dessin du clitoris n'apparaît dans un manuel scolaire et même dans les médias, dans la presse. Combien de personnes ont découvert à quoi ressemblait un clitoris il y a quelques mois? Je crois que c'était en tout cas en 2018. Récemment, un compte sur Instagram a été créé, il s'appelle Tajoui. En une semaine, il y a presque 100 000 abonnés, au moment où on enregistre cette émission en tout cas. Ce qui montre, là encore, la demande énorme et l'absence d'offres qu'il y avait jusqu'à présent. Que la jouissance féminine puisse encore être un mystère aujourd'hui, il y a quelque chose d'absolument fascinant. Or, si on parle du désir et si on dit que une manière de s'émanciper et de s'accepter, de suivre son désir, comment peut-on prétendre pouvoir le faire sans connaître son désir sexuel? Là, je ne distingue pas les deux non plus. Savoir jouir, avoir un rapport de familiarité à sa propre jouissance est la condition première de toute forme d'émancipation et de bien-être avec son propre corps. Dépendre d'un autre pour jouir, c'est une manière de dépendre de tout, en réalité. Il y a une forme d'indépendance qu'on acquiert par la jouissance, qui implique aussi du courage, qui implique, dans une relation sexuelle, le savoir dire à l'autre ce que nous désirons. sans avoir peur de ne pas se conformer aux normes, d'avoir des désirs qui paraissent absolument aberrants. La sexualité est cet univers où tous les rôles s'annulent. Des femmes très féministes et très revendicatives qui, dans la sexualité, elles-mêmes, ont envie au contraire d'être soumises. Donc la reconnaissance de son désir et l'aptitude à jouir, y compris à se faire jouir, est le premier pas vers une forme d'émancipation féminine aujourd'hui. Même si c'est pas toujours plus simple du côté des hommes. Quand on parle de sexualité, rien n'est simple, rien n'est acquis, et la jouissance n'est jamais ce qu'elle semble. Faut pas se fier à l'apparence en termes de jouissance. On peut parler de combat à mener, mais un combat libérateur, pas un combat hargneux, pas un combat castrateur, pas un combat qui va opposer les gens. Un combat, si c'est le combat de la jouissance, ça doit être un combat magnifique, un combat solidaire.
Joyeux.
Joyeux, oui, jouissif même, pourquoi pas. C'est jouissif de se battre pour sa jouissance, enfin de se battre. Le vocabulaire du combat, de la lutte, je ne sais pas si c'est forcément le plus approprié, même si ça implique une forme de lutte avec soi, mais il y a aussi une... J'employais le terme d'indulgence tout à l'heure. Ça me semble plus approprié pour accueillir le désir et même avoir le courage de le dire à l'autre, dans le cas d'une activité sexuelle avec une autre personne. Il faut aussi baisser les gardes, mais d'un côté comme de l'autre.
Oser s'abandonner.
Mais oser dire aussi, ce qui n'est pas pareil. Parce que parfois, c'est pas du tout l'abandon qui fait jouir. Parfois, c'est pas du tout l'abandon qu'on recherche. Là, rien n'est moins normatif que la sexualité. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de recettes. Il n'y a vraiment pas de recettes. C'est à nous de découvrir celle qui nous constitue. Donc moi, je me réjouis que de ces mouvements très, très récents, c'est ahurissant de penser que c'est si récent, ces mouvements qui consistent à donner la voix aux femmes et dans leur rapport au plaisir, pour le coup, féminin.
Quelle est l'étymologie de la jouissance?
Le sens de jouir au Moyen-Âge, c'est un sens juridique. Celui qui jouit de quelque chose, c'est le propriétaire qui possède un domaine et qui peut jouir de son domaine. Ça veut dire en user comme bon lui semble. Il a un pouvoir absolu sur le champ dont il est propriétaire. Il peut décider à qui il le loue, ce qu'il va cultiver, etc. Ça n'est que progressivement que ce terme de jouissance a été affublé d'un sens sexuel. Et aujourd'hui, la jouissance a quelque chose de beaucoup plus économique même. C'est le jouir à tout prix, le jouir de tout. Il y a eu la revendication de mai 68 et du jouir sans entrave, qui à la fois était très libérateur et en même temps semblait réduire la jouissance à un slogan. Or, la jouissance, c'est l'inverse du slogan, c'est jamais une injonction, c'est jamais collectif, à mon sens. Mais ce slogan a eu la vertu de montrer une voie à suivre. Et à mesure que l'histoire sociale et l'histoire de la pensée avancent, le sens même de jouissance s'affine. Et ça, c'est intéressant de voir quelle... la polysémie que contient ce terme.
On assiste à une révolution du désir, d'après toi ?
Révolution, je ne sais pas. Je sens très concrètement que quelque chose change depuis un an. La place des hommes et des femmes dans la société a changé. La place de la sexualité féminine a changé. Les relations hommes-femmes ont changé. Quelque chose change. Ça va assez vite, en fait. Ça va lentement par rapport au millénaire de retard que nous avons en termes d'égalité homme-femme, pour le dire dans un vocabulaire plus politique, mais même juste d'existence de la femme. Il y a beaucoup de retard, mais là, on en parle, justement.
Le déclencheur, ça a été l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo.
Ça a vraiment créé quelque chose, ça c'est sûr. Avec tout ce que ça a pu impliquer aussi d'outrance et de mesquinerie de part et d'autre. Ça a été un événement. Il y a clairement un avant et un après, ça c'est sûr. Qu'allons-nous faire de cet après ? C'est la question, et c'est à nous d'y œuvrer quotidiennement. Et pas que de manière militante. C'est pas qu'un geste politique, ça l'est aussi. C'est très important de reconnaître ce combat politique. Moi, c'est pas à mon échelle que je peux le faire. Moi, je le fais à une échelle beaucoup plus personnelle, inter-individuelle, et puis même à partir de moi-même. C'est un travail qu'on fait soi-même, en réalité. Éveiller chez chacune le désir de ce travail-là, c'est déjà énorme.
Dire « je veux » ou « je ne veux pas », quand on est capable de le faire au lit, est-ce que ça nous rend capable aussi de le faire dans la société ?
Ça donne confiance en soi. Ça permet de s'accepter tel qu'on est. Et cette confiance rejaillit forcément, sans mauvais jeu de mots, sur notre existence sociale. Reste que ce n'est pas la même chose. Arriver à parvenir à une vie sexuelle épanouie avec son partenaire, où chacun connaît les désirs et le type de jouissance de l'autre, n'implique pas ensuite une grande facilité à demander à son chef une augmentation ou bien parler au stagiaire d'à côté si c'est ça le problème. Vous voyez, en fait, c'est...
Parce que ça demande aussi d'être capable de dépasser sa peur de oser demander.
Alors, la vraie question, c'est est-ce que la jouissance est emblématique de notre rapport au monde et aux autres ? Alors, autant je suis toujours partante pour... inviter les gens à considérer la jouissance et l'importance qu'elle joue dans notre vie,
Autant mon discours ne consiste pas du tout à dire « jouissez le plus possible, autant que vous pouvez, et tout est affaire de jouissance ». C'est pas vrai, et heureusement, ce serait fatigant et plus personne ne jouirait d'ailleurs. Jouir tout le temps, c'est ne plus jouir.
Ça deviendrait une injonction.
Ça deviendrait une injonction, on s'en lasserait. Le propre de la jouissance, c'est qu'elle s'arrête et qu'elle peut revenir ensuite, mais qu'il y a un certain rythme. Et rien n'est plus fatigant et sans doute inutile que d'essayer de jouir à tout prix tout le temps. Donc quand je prends l'exemple de la différence entre la vie sexuelle et la vie professionnelle, c'est pour dire que, heureusement, que tout ne se ramène pas à la jouissance et à la vie sexuelle, mais qu'il y a un rapport à soi à explorer qui ne relève pas forcément de la jouissance et qui est la relation à son supérieur ou à son inférieur, une manière de s'adresser aux personnes, avoir confiance en soi, pas simplement dans son rapport à la jouissance sexuelle, mais aussi dans son apparence, mais aussi dans ses faiblesses, mais aussi dans son intimité. Non seulement il n'y a pas de recette à la jouissance, mais la jouissance elle-même n'est pas une clé à détenir, même si c'est quand même la vie quand même plus agréable quand on la détient et ça aide aussi.
Tu dis que c'est aussi un outil de liberté individuelle, la jouissance.
Ah, ça n'est que ça. La jouissance n'a d'intérêt qu'à l'échelle individuelle.
Ce n'est que ça et c'est déjà énorme.
C'est énorme, mais c'est un contresens de parler de jouissance universelle ou de dire qu'est-ce qui fait jouir tout le monde, Là, on arrive dans le marketing.
Oui, ou dans les stéréotypes et dans la norme.
Voilà, c'est ça. Ce qui plaît en ce moment, c'est tel type d'emballage sur tel produit, donc c'est ce qu'on va faire. Là, on est à l'inverse de la jouissance. La jouissance est toujours personnelle, toujours intime. Toujours une quête, toujours en partie insondable, mais il ne faut pas non plus mystifier la jouissance. S'il y a un mystère à la jouissance, déjà il est aussi bien partagé par l'homme que par la femme, il appartient à chaque individu. C'est que une personne peut jouir de telle façon, une autre de telle autre, et la manière qu'a l'autre personne de jouir est absolument mystérieuse pour moi, mais ça n'est que pour moi. On peut mettre des mots dessus, on peut se familiariser avec, si tant est qu'on se donne le temps de le faire.
On peut jouir de la vie, il y a la jouissance sexuelle, mais aussi esthétique, gastronomique. La jouissance est multiple.
Disons qu'il y a différents types de jouissance, oui. Y a-t-il un point commun entre ces différents types de jouissance? Le point commun entre jouir d'un verre de vin, jouir d'un bon livre, jouir d'un moment de repos et un orgasme, c'est pas simplement le plaisir, c'est le plaisir d'avoir du plaisir. Je parlerai de jouissance à partir du moment où on a un rapport réflexif au plaisir. C'est pas juste avoir du plaisir à. Le plaisir est quelque chose qui, bien heureusement, est partagé de manière universelle, je crois. Savoir en jouir, c'est s'y rendre attentif et avoir bien conscience que c'est du plaisir, que c'est quelque chose qui nous plaît. On peut ne pas aimer le plaisir, hein. Les jansénistes se sont passés avant nous, et là aussi 2000 ans de catholicisme. Mais on vit quand même là aussi dans une société où le plaisir n'a pas toujours eu bonne presse. Où le plaisir nous renvoie au corps, et ce corps nous renvoie à quelque chose de mortel, à des péchés, à quelque chose de vil, et donc toujours cette culpabilité par rapport au plaisir. À l'inverse, depuis un demi-siècle, le plaisir est brandi comme but suprême. Le plaisir est devenu ce que nous promet une certaine économie de marché, ce qui peut nous être accessible, ce que l'on nous vend.
Dans nos vies de femmes aujourd'hui, très contraintes, où les femmes réalisent beaucoup des doubles journées, le fait de jouir de la vie, de voler quasiment des instants de plaisir, de bonheur, et de les savourer en conscience, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de résistance?
Ne partons pas trop vite du principe que le travail n'est pas source de jouissance. Bien sûr, une grande majorité des femmes, sans doute, font un travail harassant, contraignant, qui n'est en aucun cas source de jouissance. Peut-être même que leur vie de famille n'est pas source de jouissance, peut-être que leur vie sentimentale n'est pas source de jouissance, auquel cas, effectivement, les rares moments de jouissance vont être difficiles à dégager et à intégrer dans le quotidien.
C'est souvent l'accumulation de contraintes qui réduit la zone de jouissance.
C'est très compliqué parce que là, on rentre dans une question qui est celle du libre-arbitre. Dans quelle mesure choisissons-nous la vie que nous menons? Dans une grande mesure, malheureusement, très peu. Je parle de cette possibilité que nous avons. Dans certains domaines de l'existence, et à certains moments, il faut y être attentif, de choisir davantage que de subir. Mais j'ai toujours été frappée de voir que les grands jouisseurs n'étaient pas forcément les personnes les plus aisées, les plus heureuses. La jouissance n'implique pas le bonheur, et réciproquement. J'ai une amie assez proche qui a une vie très difficile. C'est la personne, parmi les gens que je connais, je crois, qui a la plus grande faculté, quand on se voit, en un quart d'heure, à être absolument là, à se délecter de ce qu'on est en train de manger, que ce soit n'importe quoi, elle est dans le moment. Et pour moi, ça, c'est une faculté de jouissance. C'est ne pas être happé par autre chose, ne pas être parasité par quelque chose, ne pas être déjà dans l'instant d'après. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouir du présent et des petites choses. Vous voyez, cette faculté-là, elle ne l'a pas décidée, sans doute. C'est peut-être une question de caractère. Ça aussi, hein, peut-être que la jouissance n'est pas forcément un choix. peut-être que certains naissent avec ce caractère. Camus dit qu'il faut une rare vocation pour être un jouisseur. Ce qui est compliqué à entendre, parce que ça veut dire que si c'est une vocation, peut-être que je ne l'ai pas et que je suis exclue.
Mais jouir, est-ce que ça se travaille pour toi? Est-ce que ça s'apprend?
Voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Il y a un donné à la base qui fait qu'on est plus ou moins apte à la jouissance. En revanche, ceux qui s'en sentent condamnés ou exclus ne le sont pas définitivement, du tout. Mais encore faut-il avoir envie, tout le monde n'a pas envie de jouir, il y a aussi ça. C'est que vraiment, on parle de la jouissance, c'est un sujet qui m'intéresse et ça définit une partie de mon rapport au monde, mais je fais aucun prosélytisme, hein. Je pense pas du tout qu'il faille jouir à tout prix. Ça crée un ancrage dans l'existence. C'est une manière de se soustraire à certaines conditions qui sont harassantes, peut-être à certaines contraintes, mais qui ne relèvent pas forcément d'une décision, donc ça qui est très compliqué. Mais déjà que cette idée germe dans l'esprit, ouvre certaines voies.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui pour toi le sel de la vie, selon l'expression de l'anthropologue Françoise Héritier?
Françoise Héritier, que j'aime beaucoup et dont j'admire beaucoup le travail, dans cet ouvrage magnifique, prend le risque, et ça c'est de la part des lecteurs, pas elle, de proposer une direction dans laquelle moi je ne me reconnais pas forcément, qui est celle de la célébration des petites choses du quotidien. Les petites choses du quotidien, bien souvent, enfin, je veux dire, on en fait tous l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus chiant, enfin, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Montaigne a cette expression pour parler des épines domestiques. C'est exactement ça. Le quotidien est fait de choses qui sont harassantes, qui nous ennuient, qui nous occupent l'esprit, dont on veut fuir. C'est quand même ça, le quotidien. Et il suffit pas de dire, ah ben, je vais célébrer la beauté du jet d'eau dans l'évier, la beauté de ce chauffage qui ne marche plus et cette peau de banane qui est tombée par terre et qui est en chemin à renverser l'assiette et le riz qui est par terre et la brosse qui va permettre de tout nettoyer, pour se dire, ben voilà, je me sens mieux, je célèbre les petites choses. Bien sûr qu'il y a des choses belles dans le quotidien. Mais je trouve qu'il y a, et là encore une fois, là c'est pas le texte de Françoise L'Héritier, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans. Le quotidien, et quelque chose de pesant, c'est aussi une bouée de secours à laquelle on s'accroche parce qu'un quotidien bien rythmé est ce qui nous permet de tenir bon, ce qui nous permet de penser à autre chose. Et quand les choses ne fonctionnent plus, c'est là où vraiment on n'arrive plus à penser, c'est là où on est enfermé dans le quotidien. Mais au fond, c'est pas ça dont on a besoin, c'est pas de beauté de petites choses, c'est de beauté de grandes choses.
Comme quoi, par exemple?
À l'échelle d'une vie, j'ai la chance d'avoir un travail que j'adore. C'est une chance inouïe, c'est une chance incroyable, mais c'est un travail. Je fais beaucoup de choses que j'adore, et ça... C'est ça que je souhaite aux gens. C'est pas de la beauté des petites choses, c'est de pouvoir regarder leur vie et se dire, bah, il y a des moments vraiment compliqués, il y a des choses qui me font souffrir, il y a des choses dont je ne me débarrasserai jamais, il y a beaucoup de combats à mener, mais la vie que je vis là, autant que je pouvais, je l'ai choisie. Et ça, c'est plus intéressant même que la jouissance, quelle qu'elle soit, ou alors c'est la jouissance suprême, quoi.
Adèle, quel est ton dernier éblouissement?
Le rire de mon fils.
Merci Adèle. Et merci de nous avoir écoutés. Arpentez à votre tour les chemins de la philosophie que propose Adèle Van Rett, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture. Retrouvez-la aussi sur Public Sénat, tous les vendredis à 22h dans Livrez-vous. Et sur France 2, tous les dimanches à 20h50 avec Dardar. Je suis Dalila Kerchouche et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur le site et sur toutes les applications de podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @MadameFigaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs.